Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a un grand vide au milieu. Donc, les prochaines fois, n'hésitez pas à remplir ce grand vide. Ça permet ainsi d'avoir l'impression que la salle est remplie. Je suis en tout cas content de vous retrouver cette semaine, étant donné que je n'étais pas avec vous dimanche dernier. Vous avez d'ailleurs les salutations de l'église de Limoges, qui m'avait invité à prêcher, et qui fait partie de notre union d'église, la ECM. Donc, salutations de l'église de Limoges. Vous connaissez peut-être l'histoire que je vais raconter, surtout si vous avez lu Les Misérables de Victor Hugo. Vous vous dites peut-être, ça y est, c'est son passé de prof de français qui le rattrape. Alors, je vais quand même raconter brièvement cette histoire. Dans Les Misérables, c'est l'histoire d'un homme poussé par la nécessité qui vole du pain. Et en tout, il purgera une peine de 19 années dans un bagne avant d'être libéré. 19 années pour avoir volé du pain. Alors en fait, entre-temps, il a essayé de s'évader. C'est pour ça que sa peine s'est rallongée. Cet homme, nommé Jean Valjean, cherche alors l'hospitalité. Et c'est finalement un évêque qui lui offre le logis. Mais voilà que l'ancien voleur remarque dans la maison des couverts en argent. Il les vole et s'enfuit. La justice le rattrape, des gendarmes ramènent Jean Valjean chez l'évêque, et ce dernier, au lieu de dénoncer Valjean, déclare qu'il lui avait donné en fait ses couverts. Et vous imaginez la tête de Jean Valjean. Au lieu d'être condamné, le voilà gracié. L'évêque lui fait juste promettre de devenir désormais un honnête homme. Et la suite du roman, si ça vous donne envie de le lire, la suite du roman nous montre comment Jean Valjean se met vraiment à changer. Cette histoire est fictive, mais la nôtre, notre histoire, est bien réelle. Si nous avons placé notre confiance en Jésus, nous avons expérimenté ce qu'est la grâce de Dieu. Et tout au long de ce culte, nous n'avons pas cessé d'en parler. Nous avons expérimenté cette grâce au point de ne plus vouloir retourner à notre vie d'avant. Comme Jean Valjean, il y a eu un avant et un après. Mais contrairement à lui, c'est sur Dieu que nous comptons pour vraiment changer et non sur nos propres forces. La grâce de Dieu. L'apôtre Paul en parle dans sa lettre qu'il adresse aux chrétiens d'Éphèse. Et probablement à d'autres qui sont dans la région. Cette lettre, nous sommes en train de l'étudier depuis déjà plusieurs semaines, et ma prière pour l'église de Saint-Maur, ma prière est que les vérités qui sont exposées dans cette lettre nous saisissent à nouveau. Et que cela ait un impact sur notre vie en 2022. Paul a débuté son épître en louant Dieu qui nous a tant bénis, qui a béni ses enfants, eux qui ont été choisis, adoptés, délivrés, éclairés, acquis, unis à Christ. Voilà un beau cadeau. Et Paul poursuit en remerciant Dieu pour la foi et l'amour qui se trouvent chez ses destinataires. Et il prie qu'ils soient toujours plus éclairés par l'Esprit Saint. Dans quel but ? Afin de connaître Dieu, afin de mieux comprendre tout ce qui fait leur espérance. Et sur cette lancée dans notre texte, Paul met l'accent sur la grâce de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et ce qu'il dit des Éphésiens est valable pour les chrétiens d'aujourd'hui. Et que dit-il ? Eh bien, il dit que nous étions morts. Mais que dans sa grâce, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Nous étions morts, mais dans sa grâce, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Et voici ce que nous ne devons pas oublier. D'abord, nous ne devons pas oublier notre ancienne marche. Si Paul prend la peine de revenir sur le passé des Éphésiens, c'est qu'il est important qu'ils n'oublient pas ce qu'ils étaient auparavant, qu'ils n'oublient pas leur ancienne marche, leur ancienne manière de vivre. D'ailleurs, si je devais vous interroger sur votre passé avant de connaître le Seigneur, quels seraient les mots, les adjectifs que vous emploieriez pour décrire ce que vous étiez autrefois? Qu'est-ce que vous diriez à votre sujet? Ignorant, ignorante, menteur, menteuse, tricheuse, tricheur, rebelle, arrogant, arrogante, méprisant, méprisante, sans Dieu, esclave, etc. Voici les mots que l'apôtre Paul a employés à ce sujet. Vous étiez morts par vos enfances et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul n'y va pas par quatre chemins. La réalité qu'il choisit de mettre en évidence est que les chrétiens d'origine non-juive, comme les Éphésiens, comme nous d'ailleurs, étaient morts. Non pas physiquement, bien sûr, mais spirituellement morts. Nous étions morts. Et à cause de leur offense, de leurs offenses à l'égard de Dieu, à cause de leurs péchés, ils étaient morts, séparés du Dieu vivant. Et toute leur conduite le démontrait qu'ils étaient morts, influencés par le train de ce monde. D'ailleurs, nul n'ignore combien notre environnement nous influence. Que ce soit les personnes qui nous entourent, que ce soit le mode de vie que les autres adoptent, que ce soit les messages publicitaires que nous entendons, ou encore les codes culturels dont nous n'avons pas toujours conscience. Nous n'ignorons pas combien notre environnement nous influence. Et des hommes et des femmes qui vivent dans un monde qui s'oppose à Dieu ne peuvent que vivre d'une manière opposée à la volonté de Dieu, à moins d'un miracle. Je répète, des hommes et des femmes qui vivent dans un monde qui s'oppose à Dieu ne peuvent que vivre d'une manière opposée à Dieu, à moins d'un miracle. Et c'est ce que j'ai voulu montrer par ce schéma. Paul précise même que les Éphésiens vivaient sous l'influence du diable, celui qui est désigné ici comme le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire, pour reprendre la traduction du semeur, le chef des puissances spirituelles mauvaises. Et si nous parlons ici de l'air, puissance de l'air, c'est parce que ces puissances mauvaises se trouvent dans le monde céleste. Le monde céleste, cet endroit invisible mais bien réel. Nous avons peut-être en tête la représentation populaire que les anges sont en haut et les démons sont en bas, sous terre. Mais pourtant, nous lisons dans la Bible, et notamment vers la fin de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ce prince de la puissance de l'air, le diable, est aussi celui qui entretient activement dans le cœur des hommes, la rébellion contre Dieu. Le diable est actif. Et c'est pour ça que les hommes sont aussi rebelles et aussi endurcis. Et c'est une réalité qui s'illustre chaque jour lorsque nous voyons comment tourne notre monde. C'est donc ainsi qu'avant d'être chrétiens, nous marchions. Tous, sans exception. Nous étions comme ça. Nous étions morts spirituellement. Voilà ce qui nous qualifiait. Et l'apôtre poursuit au verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Paul ne veut pas parler uniquement des Éphésiens, vous. Mais il dit aussi « nous tous », en faisant référence aux chrétiens d'origine juive, « nous tous, nous étions comme vous, mort spirituellement, tellement loin de faire la volonté de Dieu. Et Paul évoque les convoitises de la chair, qui ne se limitent pas aux convoitises sexuelles, mais à tous les désirs coupables que l'être humain pécheur peut avoir lorsqu'il n'est pas en relation avec Dieu. La chair désigne cette condition de l'être humain livré à lui-même, qui vit sans Dieu, qui estime ne pas avoir besoin de Dieu. Et une telle personne fait tout ce qu'elle veut. Et il en est ainsi depuis la chute, depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Étant pécheurs par nature, nous étions des enfants de colère, c'est-à-dire des créatures qui devaient subir la colère de Dieu. Si nous réfléchissons un petit peu, si l'injustice que nous voyons dans ce monde ou dont nous sommes victimes nous met parfois en colère, combien Dieu a plus de raisons d'être en colère lorsque le monde s'oppose à lui. La colère de Dieu est tout à fait justifiée. C'est même la réaction appropriée qu'un Dieu juste et saint doit avoir par rapport au péché. Or, plus d'une fois, Dieu a exprimé sa colère par ses jugements. Et dans la Bible, nous pouvons citer comme exemple le déluge. Très tôt dans l'histoire de l'humanité, le déluge comme expression de la colère de Dieu. Nous pouvons également citer la destruction de Sodome et Gomorre, des villes où la perversité était à son comble. Et puis un autre lieu où Dieu a jugé notre péché, la croix. La croix où Jésus a été condamné à notre place, à cause de nos convoitises, à cause de notre rébellion. À la croix, nous avons un aperçu de ce que nous méritions. Là aussi, Dieu a exprimé sa colère. Avant de poursuivre, rappelons-nous que nous étions des enfants de colère. Et je précise bien, nous étions au passé. Des personnes qui devaient subir la colère de Dieu, et c'est tout ce que nous méritions. Et avec ces trois versets, n'oublions pas d'où nous venons. Gardons un portrait réaliste de ce que nous étions autrefois. Je ne sais pas, lorsque vous donnez votre témoignage, si vous pensez à cet aspect-là, que vous étiez mort spirituellement. Et c'est Dieu dans sa parole qui nous dresse le portrait le plus fidèle à notre passé. Parfois, nous pouvons avoir des illusions sur nous-mêmes, mais Dieu n'a pas d'illusions sur nous. Nous étions morts spirituellement, sous l'influence du monde, du diable et de nos propres penchants coupables. Nous étions voués à subir la colère divine. Alors si je m'arrêtais là, on pourrait tous déprimer et repartir. Mais pourtant, ce portrait sombre que dresse l'apôtre Paul n'est pas là pour nous désespérer ou pour nous décourager, mais pour voir par contraste combien Dieu a été bon avec nous. Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble, de ne pas oublier que Dieu est intervenu. Vous connaissez sans doute le cantique « Amazing Grace » et peut-être aussi celui qui l'a composé, John Newton. C'était un Anglais du XVIIIe siècle qui a eu un avant et un après. Avant, il était tristement célèbre pour son implication dans le trafic d'esclaves. Mais c'est lors d'une tempête en mer qui menaçait son bateau que le marin se convertit à Jésus-Christ. Il devient alors pasteur anglican et milite pour l'abolition de l'esclavage. Et voici ce que nous lisons à l'arrière de sa tombe. John Newton, pasteur, jadis incroyant et débauché, serviteur d'esclaves en Afrique, mais par la grande miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, gardé, transformé, pardonné et choisi pour prêcher la foi qu'il chercha longtemps à détruire. Comme pour John Newton, la bonne nouvelle que nous avons dans l'Évangile, c'est que Dieu ne nous a pas laissés morts spirituellement. Dans notre misère, nous n'avions aucun moyen, vraiment aucun, pour nous en sortir. Il fallait que quelqu'un qui soit extérieur à notre monde corrompu puisse nous venir en aide. Ce ne pouvait pas être l'un d'entre nous, ce ne pouvait qu'être lui, Dieu. C'est pour ça que nous lisons au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Dieu ne nous a pas laissés morts parce que Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en bonté, en compassion. Et comme le relève un commentateur, Dieu est si bon qu'il nous accorde le contraire de ce que nous méritons. Dieu est si bon qu'il nous accorde le contraire de ce que nous méritons. C'est vraiment incroyable. Dieu nous aime tant, et vous remarquez que Paul parle de son grand amour, Dieu nous aime tant qu'il nous a rendus vivants avec Christ, en nous accordant la vie que des pécheurs ne méritent pas. Or, nous sommes pécheurs. C'est ça que nous appelons la grâce. Comme le disait le prédicateur Charles Spurgeon, la grâce n'est que pour les coupables. Le pardon n'est que pour les pécheurs. La grâce n'est que pour les coupables, le pardon n'est que pour les pécheurs. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Parce qu'effectivement, c'est Christ qui nous a procuré le droit à la vie. C'est Christ qui nous a donné le droit de vivre par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Des morts comme nous étions ne peuvent pas revivre, mais par sa puissance, Dieu a opéré cette résurrection spirituelle. C'est ce qui s'est passé pour vous, c'est ce qui s'est passé pour moi, lorsque nous avons accepté que notre salut ne vienne que de lui. Et dès ce moment, Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. Et bien plus, au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai déjà eu l'occasion de mentionner ce verset 6 il y a 2 semaines. Notre lien avec Jésus, notre union avec Jésus est si forte que nous partageons spirituellement ce qu'il a vécu vraiment. Dans le premier chapitre, c'est ainsi que l'apôtre Paul décrit la puissance de Dieu. C'est ce que vous avez vu dimanche dernier avec Yoxas. Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Cette puissance, Dieu l'a mise en œuvre pour nous sauver, de telle sorte que nous pouvons affirmer qu'en Christ, unis avec lui, nous sommes ressuscités et assis dans les lieux célestes. Nous ne le vivons pas dans notre corps, mais spirituellement. Spirituellement, c'est déjà une réalité. Et un jour, nous le vivrons dans notre corps transformé. Et voici ce qu'écrit le professeur Dominique Anger à ce sujet. S'il ressuscite, nous reprenons vie avec lui. Spirituellement, pour l'instant, physiquement, lors de son retour. S'il monte au ciel, nous y accédons en sa compagnie, spirituellement, pour l'instant, physiquement, quand le ciel et la terre seront renouvelés à la fin de l'histoire. Alors, je sais que ce qu'écrit l'apôtre Paul conserve une part de mystère pour nous. Parce que nous sommes plutôt sensibles à des expériences. Et là, je vous dis des réalités qui ne sont pas palpables. Mais si Dieu nous dit dans sa parole qu'il en est ainsi, que nous sommes ressuscités et assis dans les lieux célestes en Christ, eh bien, nous pouvons être reconnaissants. Nous pouvons être reconnaissants et nous en réjouir, sachant ce que nous étions autrefois, sachant ce que nous méritions en réalité. La mort plutôt que la vie, la condamnation plutôt que le salut. Alors que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour comprendre combien tout cela est merveilleux. Nous étions si bas, et en Christ, Dieu nous élève si haut. C'est de cela dont nous devons nous rendre compte. Nous étions si bas, et en Christ, Dieu nous élève si haut. Est-ce que vous connaissez un sauvetage plus grand que celui-là? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela pour des êtres qui ne le méritent pas? Par bonté, par amour, par grâce. Dieu a agi ainsi afin de montrer, verset 7, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La gloire revient à notre Dieu et on ne cessera pas dans les siècles à venir et pour l'éternité de célébrer Dieu pour sa grâce infinie qu'il a manifestée en Jésus-Christ. Sans fin, nous célébrerons Dieu pour la manifestation de sa grâce. Pour des morts qui ont reçu la vie, nous ne devons pas oublier que Dieu est intervenu pour notre salut. Dieu est intervenu poussé par son amour et poussé par sa grâce envers nous. Nous avons vu que Paul rappelle à ses destinataires leur ancienne marche, qui était aussi notre condition passée, mort spirituellement. Et que Paul évoque également l'intervention imméritée de Dieu qui a ainsi manifesté sa bonté envers nous. Et enfin, il y aurait un dernier aspect à voir ensemble, mais j'aimerais d'abord inviter l'équipe de louanges à me rejoindre pour que nous chantions ensemble la première partie d'un chant que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vous invite à vous lever.
Tout pour mon cœur. m'a sauvé, m'a libéré. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Dans sa bonté, il m'a béni. Amour immense, grâce infinie.
Vous pouvez reprendre place. Qu'est-ce que nous ne devons pas oublier ? En dernier lieu, notre nouvelle marche. Paul affirme aux chrétiens d'Éphèse : c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, en tant que chrétiens, nous pouvons nous définir ainsi, des hommes et des femmes sauvés par grâce, parce que Dieu l'a bien voulu et qu'il nous aime vraiment. Alors que Dieu nous offre gratuitement son salut, il nous faut répondre à son offre. Et c'est là qu'intervient la foi. Lorsqu'un gardien de prison questionne Paul et Silas en demandant « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Qu'est-ce que Paul et Silas répondent ? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Lisons cela dans Actes chapitre 16, versets 30 et 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire au Seigneur Jésus. Voilà la foi qui est demandée. Mais vous pourriez vous demander, mais comment des gens morts spirituellement, rebelles à Dieu, pourraient-ils croire en Dieu ? Comment c'est possible ? Eh bien, la réponse se trouve dans notre texte. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. À des personnes mortes spirituellement, c'est impossible qu'elles puissent d'elles-mêmes croire en Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Pensez à cette scène absurde. Une personne est en train de se noyer. Elle est secourue par un maître nageur et à un mètre de la rive, elle dit au maître nageur « Laissez-moi maintenant nager le dernier mètre. » Pourquoi cette personne ne se laisse-t-elle pas secourir jusqu'au bout ? Pourquoi aurait-elle envie de nager le dernier mètre toute seule ? Dieu est entièrement l'auteur de notre salut, à 100%. Il n'y a même pas 1% qui viendrait de nous, de nos œuvres. Personne ne peut donc se vanter ou faire valoir ses mérites. Nous n'avons aucun mérite. Et chaque fois que quelqu'un vient à Christ, chaque fois que quelqu'un répond positivement au message de l'Évangile, c'est parce que Dieu est intervenu dans sa grâce. La personne n'avait pas des prédispositions particulières, mais Dieu est intervenu dans sa grâce. Cela ne vient pas de cette personne, c'est un don de Dieu. Quant à nous, nous n'avons aucun mérite dans le fait de croire en Dieu. Nous n'étions pas plus intelligents que nos contemporains, mais Dieu a bien voulu nous faire comprendre sa grâce. Peut-être que le contexte de certains d'entre nous semblait plus favorable. Le fait de grandir dans une famille chrétienne, le fait de fréquenter une église depuis son enfance. Mais même là, vous le savez comme moi, rien n'est automatique. Dans sa grâce, Dieu sauve aussi bien la personne qui a connu un contexte favorable que la personne qui n'a jamais entendu l'Évangile avant l'appel de Dieu. Nous étions morts spirituellement, mais Dieu ne nous a pas laissés morts. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Et même si nous faisons le bien à présent, même si nous suivons la volonté de Dieu, il ne nous est pas possible de nous vanter. Verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a sauvés pour une nouvelle marche, pour une nouvelle manière de vivre qui n'a plus rien à voir avec notre passé. Et nous avons vu combien notre passé était désastreux, honteux, parce que nous étions loin de Dieu. De nous-mêmes, nous n'aurions jamais voulu changer notre manière de vivre. Mais dans sa grâce, Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Voilà ce qui change. C'est ce qu'il faut comprendre quand Paul écrit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Et le mot grec, qui est traduit par « ouvrage » ici, n'est pas trop faible pour évoquer cette nouvelle création. Ce mot, c'est « poiema », qui a donné « poème » en français. Nous sommes son « poiema », son « ouvrage ». D'autres commentateurs iraient jusqu'à dire « son chef-d'œuvre ». Paul l'exprime d'une autre manière ailleurs lorsqu'il dit « si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Il fait partie d'une nouvelle création que Dieu a déjà commencée. Non seulement nous sommes passés de la mort à la vie, mais nous sommes aussi passés de notre ancienne marche à une nouvelle marche, à une nouvelle manière de vivre que Dieu a préparée d'avance. Là aussi, il est utile de connaître le grec pour voir que Paul utilise à cet endroit au verset 10 le même verbe qu'au verset 2. Vous vous souvenez un petit peu peut-être du début du passage, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Littéralement. Ancienne marche, nouvelle marche, afin que nous marchions en elle. Dieu a déjà préparé la marche à suivre. Et toutes les bonnes œuvres que nous pouvons accomplir, Dieu les a déjà préparées. Tout le bien que nous pouvons faire, Dieu l'avait déjà préparé. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous vanter. Oh, vraiment, nous ne pouvons pas nous vanter, ni de nos initiatives, ni de nos projets pour Dieu, ni de nos réussites, parce qu'il avait tout préparé. Toute la gloire revient à Dieu. Et avouons-le, c'est si dur pour nous de nous enlever le mérite de nos bonnes œuvres. Mais toute la gloire revient à Dieu, parce qu'il a préparé d'avance des œuvres bonnes. Et le bien que vous allez faire demain, il l'a préparé d'avance. Vous ne pouvez pas vous vanter de quoi que ce soit, et moi non plus. Nous ne nous rendons pas compte que Dieu avait préparé tout ça d'avance. Bien entendu, si je prends un exemple dans le cadre de l'Église, nous pouvons remercier un frère, une sœur pour le service rendu à l'Église. Mais ultimement, c'est toujours Dieu qui doit être célébré. Nous devons remercier Dieu pour les dons qu'il a donnés à tel frère, à telle sœur. Nous devons remercier Dieu pour le bien qu'il est capable de faire. Prenons conscience, mes frères et sœurs, que sans Dieu, nous ne pourrions rien accomplir de bon qui entre dans sa volonté. Aujourd'hui et durant le restant de notre vie sur terre, il nous faut continuer à marcher dans de bonnes œuvres, en faisant tout ce que Dieu veut, et non plus tout ce que nous voulons. Et nous savons que Dieu nous y aidera, lui qui nous a donné son Esprit Saint pour marcher à sa suite. Et alors que nous avons bien entamé 2022, quelles sont pour cette année les bonnes œuvres que Dieu te demande d'accomplir? Qu'est-ce que Dieu te demande d'accomplir pour cette année? Et si on ne va pas aussi loin pour cette semaine, qu'est-ce que Dieu te demande d'accomplir? Quelles sont ces bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance? Si nous comprenons que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour que nous marchions dans l'obéissance et non plus dans nos péchés, dans quel domaine de ta vie Dieu t'appelle-t-il à t'aligner sur sa volonté? S'agit-il de demander pardon à quelqu'un? S'agit-il de pardonner à quelqu'un? S'agit-il de te montrer plus patient avec tes collègues, avec tes enfants, avec ton conjoint, au lieu de t'emporter facilement? S'agit-il de prendre plus souvent des nouvelles de tes frères et sœurs afin de savoir comment prier pour eux et comment les encourager? Quelles sont les bonnes œuvres que Dieu te demande? Et les exemples sont nombreux, mais toi seul sais ce que Dieu te demande dans l'immédiat. Et sache que tu ne pourras pas te vanter de ces bonnes œuvres, parce que Dieu les a préparées d'avance. La grâce de Dieu est étonnante et mérite d'être célébrée durant toute l'éternité. Dans ce texte d'Éphésiens 2, l'apôtre Paul énonce des vérités que nous ne devons pas oublier. Nous étions morts. Nous ne devons pas oublier cela. Mais dans sa grâce, Dieu nous a rendus vivants avec Christ pour vivre d'une manière nouvelle. N'oublions pas notre ancienne marche, notre passé honteux avant de connaître Christ, pour considérer à sa juste valeur l'intervention puissante de Dieu, qui nous a rendus vivants en Jésus-Christ à cause de son grand amour. Et notre nouvelle marche, ne l'oublions pas non plus, notre nouvelle marche dans les bonnes œuvres, qui résulte de cette vie que Dieu nous a accordée dans sa grâce. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et en voyant tout cela, nous prenons alors conscience qu'en tant que nouvelle créature, nous vivons toujours dans un monde qui n'a pas été transformé et que notre propre transformation n'est pas encore achevée. Et c'est ce qui explique tant de luttes dans notre vie, tant de difficultés à vivre comme Dieu le veut. Il y a ce décalage entre le fait que nous sommes déjà une nouvelle créature et nous vivons dans un monde qui n'est pas encore transformé. Mais nous savons que pour avancer, nous savons que pour grandir dans la foi, pour persévérer, nous dépendons de Dieu, entièrement. Et dans sa grâce étonnante, nous serons un jour, quand Christ reviendra, exactement comme Dieu le veut. Et nous ne finirons pas de le louer pour ça. Amen. Prions ensemble. Notre Père, nous te rendons grâce pour ta grâce, cette grâce que tu as manifestée à notre égard en Jésus-Christ. Oui, nous voulons te rendre grâce parce que nous voulons encore une fois mesurer combien c'est une grâce. En pensant à notre passé, avant de te connaître, avant que tu te révèles à nous, combien c'est un passé qui est honteux. Parce que nous étions rebelles à toi. Et c'est vrai, nous n'aurons sans doute que nous ne prenions pas vraiment conscience du mal que nous faisions. Mais à tes yeux, c'est vrai, nous faisions le mal. Nous étions des enfants de colère. Mais merci parce que dans ta grâce, poussé par ton amour si grand, tu nous as attirés à toi. Et tu nous as rendus vivants avec Christ. Tu nous as donné cette vie nouvelle, tellement inestimable. Une vie nouvelle qui nous encourage maintenant à marcher dans une voie nouvelle pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous puissions marcher dans ces bonnes œuvres. Et nous voulons te remercier pour cela, parce que c'est vrai, aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes ton ouvrage. Toi qui nous as créés en Jésus-Christ. Et même si nous vivons encore dans ce monde qui ne te suit pas, qui ne veut pas entendre parler de toi, nous savons que nous pouvons continuer à compter sur toi pour persévérer. Et que par ta grâce, nous serons un jour ce que tu veux que nous soyons. Alors merci, merci de nous accompagner encore tout au long de cette semaine, de nous accompagner tout au long de notre vie, de ne pas lâcher notre main et de nous accorder ainsi de toujours nous émerveiller devant cette grâce étonnante. À toi seul soit la gloire, non seulement maintenant, mais pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Et que nous puissions entonner la suite de ce cantique ensemble, grâce infinie.
Je vous invite à reprendre place.